Chapitre 4. Le pied de Saint-Louis. Messer Tholomeï fut introduit dans le cabinet et Robert d'Artois se déplia tout entier pour l'accueillir, paumes ouvertes.
Ami banquier, je vous ai de grandes dettes et vous ai toujours promis de vous payer à la première faveur que me ferait le sort. Eh bien, ce moment est venu.
Heureuse nouvelle, monseigneur, répondit Spinello Tholomeï en s'inclinant.
Et d'abord, poursuivit d'Artois, je veux commencer par m'acquitter de la reconnaissance que je vous dois en vous procurant un client royal.
Tholomeï s'inclina de nouveau et plus profondément devant Charles de Valois en disant
« Qui ne connaît monseigneur, au moins de vue et de renommée? Il a laissé de grands souvenirs à Sienne. »
Les mêmes qu'à Florence, à ceci près que Sienne étant plus petite, il n'avait pris que 17 000 florins pour la pacifier.
« J'ai moi aussi gardé bonne impression de votre ville, » dit Valois. « Ma ville à présent, monseigneur, c'est Paris. »
Le teint bistre, la joue grasse et pendante, l'œil gauche fermé par la malice, Tholomeï attendait qu'on l'invitât à s'asseoir, ce que fit Valois en lui désignant un siège. Car Messer Tholomeï méritait quelques égards. Ses confrères, marchands et banquiers italiens de Paris, l'avaient élu tout récemment à la mort du vieux Boccanegra, capitaine général de leur compagnie. Cette fonction qui lui donnait contrôle ou connaissance de la quasi-totalité des opérations de banque dans le pays, lui conférait une puissance secrète, mais primordiale. Tholomeï était une sorte de connétable du crédit.
« Vous n'ignorez pas, ami banquier, reprit d'Artois, le grand mouvement qui se fait ces jours-ci. Messire de Marigny, qui n'est pas fort votre ami, je crois, non plus qu'il n'est le nôtre, se trouve en mauvais point. »«
Je sais, murmura Tholomeï.
Aussi ai-je conseillé à monseigneur de Valois, comme il avait besoin d'appeler un homme de finance, de s'adresser à vous, dont l'habileté m'est connue autant que le dévouement. »
Tholomeï remercia d'un petit sourire de courtoisie. Sous sa paupière close, il observait les deux grands barons et pensait « Si l'on voulait m'offrir la gérance du trésor, on ne me ferait point tant de compliments. »
« Que puis-je pour votre service, monseigneur ? » demanda-t-il en se tournant vers Valois. Eh, « Mais ce que peut un banquier, messer Tholomeï ? » répondit l'oncle du roi avec cette belle arrogance qu'il avait lorsqu'il s'apprêtait à demander de l'argent.
« Je l'entends bien ainsi, monseigneur. »
« Avez-vous des fonds à placer en bonnes marchandises qui doubleront de prix dans les 6 mois à venir ? Désirez-vous quelque part dans le commerce de navigation qui se développe fort en ce moment, où l'on doit apporter par mer tant de choses qui manquent ? Voilà de tels services que j'aurai honneur à vous rendre. »«
Non, il ne s'agit point de cela, » dit vivement Valois.
« Je le déplore, monseigneur. Je le déplore pour vous. Les meilleurs gains se font par tant de pénuries. »
« Ce que je souhaite présentement, c'est que vous m'avanciez un peu d'argent frais pour le trésor. »
Tholomeï prit une mine désolée. « Ah, monseigneur, ne doutez point du désir que j'ai de vous obliger, mais voilà bien la seule chose en quoi je ne puis vous satisfaire. Nos compagnies ont été fort saignées ces mois derniers. Nous avons dû consentir au trésor un gros prêt qui ne nous rapporte rien pour solder le coût de la guerre de Flandre. »
« Cela, c'était l'affaire de Marigny. »«
Certes, monseigneur, mais c'était notre argent. De ce fait, nos coffres sont un peu rouillés aux serrures. À combien se monte votre besoin ?»«
10 000 livres. »
Dans ce chiffre, Valois avait calculé 5 000 livres pour l'ambassade de Bouville, 1 000 pour Robert d'Artois et le reste pour faire face à ses propres embarras les plus pressants. Le banquier joignit les mains devant son visage.
« Sainte Madone, mais où les trouverai-je » s'écria-t-il.
Ses protestations devaient s'entendre comme préliminaires d'usage. D'Artois en avait prévenu Valois. Aussi, ce dernier prit-il le ton d'autorité qui généralement en imposait à ses interlocuteurs.
« Allons, allons, messer Tholomeï, ne rusons point ni ne musons. Je vous ai mandé pour que vous fassiez votre métier comme vous l'avez toujours exercé, avec profit, je pense. »
« Mon métier, monseigneur, répondit tranquillement Tholomeï, mon métier est de prêter, il n'est point de donner. Or, depuis quelque temps, j'ai beaucoup donné, sans retour aucun. Je ne fabrique point de monnaie et n'ai pas inventé la pierre philosophale.
Ne m'aiderez-vous donc point à vous débarrasser de Marigny? C'est votre intérêt, il me semble.
Monseigneur, payer tribut à son ennemi lorsqu'il est puissant, et puis payer encore pour qu'il ne le soit plus, est une double opération qui, vous en conviendrez, ne rapporte guère. Au moins faudrait-il savoir ce qui va suivre, et si l'on a chance de se rattraper.
Charles de Valois, aussitôt, entonna le grand couplet qu'il récitait à tout venant depuis 8 jours. Il allait, pour peu qu'on lui en procurât les moyens, supprimer toutes les noveltés introduites par Marigny et ses légistes bourgeois. Il allait rendre l'autorité au grand baron, il allait rétablir la prospérité dans le royaume en revenant au vieux droit féodal qui avait fait la grandeur du pays de France. Il allait restaurer l'ordre. Comme tous les brouillons politiques, il n'avait que ce mot à la bouche et ne lui donnait d'autre contenu que les lois, les souvenirs ou les illusions du passé.
Avant longtemps, je vous assure qu'on sera retourné aux bonnes coutumes de mon aïeul Saint-Louis.
Se disant, il montrait, posé sur une sorte d'autel, un reliquaire en forme de pied et qui contenait un os du talon de son grand-père. Ce pied était d'argent avec des ongles d'or. Car les restes du Saint-Roi avaient été partagés, chaque membre de la famille, chaque chapelle royale, voulant en garder une parcelle. La partie supérieure du crâne était conservée dans un beau buste d'orfèvrerie à la Sainte-Chapelle. La comtesse Mao d'Artois, dans son château de Hesdin, possédait quelques cheveux ainsi qu'un fragment de mâchoire, et tant de phalanges, d'esquilles, de débris avaient été ainsi répartis qu'on pouvait se demander ce que contenait la tombe de Saint-Denis, si même la véritable dépouille y avait jamais été déposée. Car une légende tenace courait en Afrique selon laquelle le corps du roi franc avait été enseveli près de Tunis, tandis que son armée ne rapportait en France qu'un cercueil vide ou chargé d'un cadavre de remplacement. Ptolomée alla baiser dévotement le pied d'argent, puis demanda « Pourquoi vous faut-il au juste ces 10 000 livres, monseigneur ?» Force fut à Valois de révéler en partie ses projets immédiats. Le Siennois écoutait en hochant la tête et disait, comme s'il prenait mentalement des notes, « Messire de Bouville à Naples, oui, oui. Nous commerçons avec Naples par nos cousins les Bardi. Mariez le roi, oui, oui, je vous entends, monseigneur. Rassemblez le conclave. Ah, oh, monseigneur, un conclave coûte plus cher à bâtir qu'un palais, et les fondations en sont moins solides. Oui, monseigneur, oui, je vous écoute. » Quand enfin il eut appris ce qu'il souhaitait savoir, le capitaine général des Lombards déclara « Tout cela est certes bien pensé, monseigneur, et je vous souhaite le succès du fond du cœur. Mais rien ne m'assure que vous marierez le roi, ni que vous aurez un pape, ni même, si cela était, que je reverrai mon or, à supposer que je sois en mesure de vous le fournir. » Valois jeta un regard irrité vers d'Artois.
« Quel étrange bonhomme m'avez-vous amené là, semblait-il dire, et n'aurais-je tant parlé que pour n'en rien obtenir ?»«
Allons, banquier !» s'écria d'Artois en se levant.
« Quel intérêt demandes-tu? Quel gage? Quelle franchise ou autre avantage ?»«
Mais aucun, monseigneur, aucun gage !» protesta Ptolomée.
« Pas de vous, vous le savez bien, ni de monseigneur de Valois, dont la protection m'est trop chère. Je cherche simplement... Je cherche comment je pourrais vous aider. »
Puis, se tournant à nouveau vers le pied d'argent, il ajouta doucement. « Monseigneur de Valois vient de dire qu'on allait rendre au royaume les bonnes coutumes de Monseigneur Saint-Louis. Mais qu'entend-il par là? Va-t-on remettre en usage toutes les coutumes ?»«
Certes, » répondit Valois sans bien comprendre où l'autre voulait en venir. « Va-t-on rétablir, par exemple, le droit pour les barons de battre monnaie sur leurs terres? Si telle ordonnance était reprise, alors, Monseigneur, je serais mieux apte à vous appuyer. »
Valois et d'Artois se regardèrent. Le banquier pointait droit sur la plus importante des mesures que Valois projetait, et celle qu'il tenait la plus secrète, parce qu'elle était la plus préjudiciable au trésor et pouvait être la plus contestée. En effet, l'unification de la monnaie dans le royaume, ainsi que le monopole royal de l'émettre, étaient des institutions de Philippe le Bel. Auparavant, les grands seigneurs fabriquaient ou faisaient fabriquer, concurremment avec la monnaie royale, leurs propres pièces d'or et d'argent qui avaient cours en leur fief. Et ils tiraient de ce privilège une grosse source de profit.
En tiraient profit également ceux qui, comme les banquiers lombards, fournissaient le métal brut et jouaient sur la variation de taux d'une région à l'autre. Et Valois comptait bien sur cette bonne coutume pour relever sa fortune. « Voulez-vous dire encore, monseigneur, » poursuivit Ptolomée, continuant à considérer le reliquaire comme si l'on faisait l'estimation, « voulez-vous dire que vous allez restaurer le droit de guerre privée ?» C'était là une autre des prérogatives féodales abolies par le roi de fer, afin d'empêcher les grands vassaux de lever bannière à leur guise et d'ensanglanter le royaume pour régler leurs différends personnels, étaler leur gloriole ou secouer leur ennui.
« Ah, que ce sain usage nous soit vite rendu !» s'écria Robert, « et je ne tarderai pas à reprendre le comté d'Artois sur ma tante Mao. »«
Si vous avez besoin d'équiper des troupes, monseigneur, » dit Ptolomée, « je puis vous obtenir les meilleurs prix des armuriers toscans. »«
Mais, cher Ptolomée, vous venez d'exprimer tout juste les choses que je veux accomplir, » dit alors Valois, se rengorgeant. « Aussi, je vous demande de marcher de confiance avec moi. »
Les financiers ne sont pas moins imaginatifs que les conquérants. Et c'est mal les connaître que de les croire uniquement inspirés par l'appât du gain. Leurs calculs, souvent, dissimulent des songes abstraits de puissance. Le capitaine général des Lombards rêvait, lui aussi, d'autre manière que le comte de Valois, mais il rêvait. Il se voyait déjà fournissant en or brut les grands barons du royaume et dirigeant leurs querelles, puisqu'il en négocierait l'armement. Or, qui tient l'or et tient les armes, détient le vrai pouvoir. Mais Messer Ptolomée jouait avec des pensées de règne.
« Alors, » reprit Valois, « êtes-vous décidé maintenant à me procurer la somme que je vous ai demandée ?»«
Peut-être, monseigneur, peut-être. Non que je sois en mesure de vous la donner moi-même, mais je puis sans doute vous la trouver en Italie, ce qui conviendrait fort bien, puisque c'est là justement que se rend votre ambassade. Pour vous, cela ne fait point de différence. »«
Certes, non, » fut obligé de répondre Valois.
Mais l'arrangement était loin de combler ses vœux, lui rendant difficile, sinon même impossible, de puiser dans le prêt pour ses propres nécessités. Voyant Valois se rembrunir, Ptolomée poussa le fer plus avant. « Vous offrirez la garantie du trésor, mais chacun sait, chez nous en tout cas, que le trésor est vide, et ces bruits-là vont vite accourir entre les comptoirs de banque. » Je devrais donc engager ma propre garantie et le ferai de grand cœur, monseigneur, pour vous servir. Mais il sera nécessaire qu'un homme de ma compagnie, porteur des lettres de change, escorte votre envoyé afin de prendre l'argent en charge et d'en être comptable. Valois se renfrognait de plus en plus.
Eh, monseigneur, dit Ptolomée, c'est que je ne vais point agir seul en cette affaire. Les compagnies d'Italie sont encore plus méfiantes que les nôtres et j'ai besoin de leur donner toute assurance qu'elles ne seront point bernées. »
En vérité, il voulait avoir un émissaire dans l'expédition, un émissaire qui allait, en son nom et pour son compte, espionner l'ambassadeur, contrôler l'emploi des fonds, se faire instruire des projets d'alliance, connaître les dispositions des cardinaux et travailler en sous-main dans le sens qu'il lui commanderait. Messer Spinello Ptolomée régnait déjà. Un tout petit peu. Robert d'Artois avait dit à Valois que le Siennois exigerait un gage. Il n'avait pas pensé que le gage, ce pouvait être un morceau du pouvoir. Force était à l'oncle du roi, et pour satisfaire celui-ci, d'en passer par les conditions du banquier.
« Et qui donc allez-vous désigner qui ne fasse point mauvaise figure auprès de messire de Bouville ?» demanda Valois.
« Je vais y penser, monseigneur, je vais y penser. »
Je n'ai guère de monde en ce moment. Mes deux meilleurs voyageurs sont sur les routes. Quand donc messire de Bouville devrait-il partir? Mais demain, s'il se peut, ou le jour d'après. Et ce garçon, suggéra Robert d'Artois, qui était allé pour moi en Angleterre?
Mon neveu Guccio, dit Ptolomée.
C'est cela même, votre neveu. Vous l'avez toujours auprès de vous? Eh bien, que l'envoyez-vous? Il est fin, délié d'esprit, et il a bonne tournure. Il aidera notre ami Bouville, qui ne doit guère parler le langage d'Italie, à se débrouiller sur les chemins. « Soyez rassuré, mon cousin, » ajouta d'Artois, s'adressant à Valois. « Ce garçon-là est de bonne recrue. »«
Il va fort me manquer ici, » dit Ptolomée.
« Mais soit, monseigneur, je vous l'abandonne. Il est dit que vous obtiendrez toujours de moi tout ce que vous souhaitez. »
Bientôt après, il prit congé. Dès que Ptolomée fut sorti du cabinet, Robert d'Artois s'étira un grand coup et dit Eh bien, Charles, m'étais-je trompé ?
Comme tout emprunteur après une négociation de cette nature, Valois était à la fois content et mécontent. Et il se composa une attitude qui ne montra trop ni son soulagement ni son dépit. S'arrêtant à son tour devant le pied de Saint-Louis, il dit
« C'est cela, voyez-vous, cousin. C'est la vue de cette sainte relique qui a décidé votre homme. Allons, tout respect de ce qui est noble n'est point perdu en France, et ce royaume peut être redressé. » « Un miracle, en quelque sorte !» dit le géant en clignant de l'œil.
Ils réclamèrent leurs manteaux et leurs escortes pour aller porter au roi la bonne nouvelle du départ de l'ambassade. Dans le même temps, Ptolomei informait son neveu Guccio Baglioni d'avoir à se mettre en route dans les deux jours et lui énumérait ses instructions. Le jeune homme ne témoigna pas d'un grand enthousiasme.
« Come sei strano, Tilio mio ! Comme tu es étrange !» s'écria Ptolomei. Le sort te donne l'occasion d'un beau voyage, sans qu'il t'en coûte un denier, puisque c'est le trésor au bout du compte qui paiera. Tu vas connaître Naples, la cour des Angevins, y côtoyer les princes, et, si tu es habile, t'y faire des amis. Et peut-être vas-tu assister aux préliminaires d'un conclave. C'est chose passionnante qu'un conclave. Ambition, pression, argent, rivalité. Et même la foi chez certains. Tous les intérêts du monde jouent dans la partie. Tu vas voir cela. Et tu me fais la face longue, comme si je t'apprenais un malheur. À ta place et à ton âge, j'aurais sauté de joie et je serais déjà à boucler mon porte-manteau. Pour prendre cette figure, il faut qu'il y ait une fille que tu regrettes de quitter. Ne serait-ce pas la demoiselle de Cresset, par hasard ?
Le teint couleur d'huile d'olive du jeune Guccio fonça un peu, ce qui était sa façon de rougir.
« Elle t'attendra si elle t'aime, » reprit le banquier. « Les femmes sont faites pour attendre. On les retrouve toujours. Et si tu crains qu'elles ne t'oublient, profite donc de celles que tu rencontreras sur ton chemin. La seule chose qu'on ne retrouve pas, c'est la jeunesse et la force pour courir le monde. »